Nous allons donc lire le texte que vous avez dans la feuille mobile, donc au milieu de notre ordre du culte, qui est tiré de la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens et le chapitre 15. Nous voulons donc essayer de comprendre ces choses aujourd'hui. Je me souviens d'une fois, j'étais avec un homme, je le visitais, il voulait comprendre l'évangile chrétien. Et donc je lisais un document avec lui et un jour nous étions arrivés à discuter la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et en lisant ce document ensemble, c'est une confession de foi chrétienne, une confession historique, un document historique, Il m'a regardé subitement, les yeux tout ouverts, un regard un peu épouvanté, et il m'a dit « Mais David, tu veux dire que Jésus de Nazareth, c'est en fait le Dieu créateur qui meurt sur cette croix ?» Et j'ai dit « Oui, tu as bien compris. Il est véritablement âme. » Parce qu'il a pris sur lui l'humanité. Mais c'est le Créateur éternel. Et il m'a regardé avec ce regard peureux. Et il m'a dit, mais ça change tout. Et il avait raison. J'étais déjà passé par là. Ce que nous venons d'apprendre, cet événement qui s'est passé dans notre histoire, a tout changé pour moi. Et peut-être pour vous, si vous êtes croyant, ça a tué ce que j'étais avant. Je ne pouvais plus regarder quoi que ce soit dans le monde ou la vie. J'avais complètement tort dans ma façon de regarder les choses. Et quand j'ai compris que ce monde est le monde de Dieu et que ce Dieu est venu, qu'il est mort à cause de moi, à cause de nous, qu'il est ressuscité, qu'il a vraiment vaincu la mort, alors tout a pris un autre aspect, complètement. Et l'importance de beaucoup de choses que je tenais pour essentielles est mort ce jour-là, complètement mort, pour moi. Donc nous allons lire ce texte de Paul, où il parle aux Corinthiens, parce que ces gens dans la ville de Corinthe, ont été visités malheureusement par des faux prophètes qui essaient de pervertir l'évangile chrétien qu'ils avaient entendu et qui les avaient fait tant de bien. Et Paul veut donc corriger l'erreur de ces faux prophètes qui disent que, comme aujourd'hui, parce que, chers amis, rien ne change. Dans le premier siècle, les gens ne croyaient pas qu'un homme puisse ressuscité d'entre les morts. Et ces prophétins enseignaient que non, ça c'est pas possible, la résurrection des morts n'existe pas et ne peut pas exister. Donc, avec cette introduction, nous lisons. « Je vous rappelle, frères, dit l'apôtre Paul, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, que je vous ai annoncée et que vous avez reçue, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, puis par les douze apôtres. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, parce qu'il a demandé qu'on le rencontre en Galilée. Et donc, 500 personnes ont vu le Christ crucifié dans une seule situation. Donc, 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dit Paul au moment où il écrit ceci, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres, après eux tous, il s'est fait voir à moi. comme à l'avorton. Car je suis moi le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul n'était pas un chrétien, il tuait les chrétiens pour avoir prêché Jésus et sa résurrection. Et pendant des années, il était une terreur pour l'Église chrétienne. Et sa vie a été changée quand le Christ ressuscité l'a rencontré sur la route de Damas, où il allait pour chercher des chrétiens en pays étranger pour les ramener, les tuer, les mettre en prison ou les tuer. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, dit Paul. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, plus que les autres apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Donc il vient de définir l'évangile chrétien, c'est que Christ est mort pour nos péchés et ressuscité le troisième jour. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine, futile. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, futile, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Imaginez, croire quelque chose qui faut toute ta vie et baser toute ton espérance là-dessus, tu es le plus malheureux des gens parce que tu as basé ta vie entière sur un mensonge. Non, c'est ce que Paul dit. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Bien, j'ai, je pense, quatre points que je voulais, cinq points que je voulais, sur lesquels je voulais attirer votre attention. Si vous allez comprendre l'évangile, ce que Dieu vous donne et vous annonce à travers cet événement bouleversant de la résurrection de Jésus de Nazareth. Et la première chose, c'est que la résurrection de Jésus d'entre les morts est le cœur et la substance de l'évangile, c'est-à-dire du message de la foi chrétienne. Alors, si je vous demandais de résumer la religion chrétienne, le christianisme, quel est son message essentiel avant aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous auriez dit. En quoi ça se distingue d'autres messages, quelle est sa particularité? Mais nous voyons dans le verset 3 que Paul dit, et là vous voyez les petits chiffres dans le texte, c'est le numéro des versets, des phrases, et donc dans la quatrième ligne, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, Christ est mort pour les péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. » Donc l'apôtre nous informe que peut-être le christianisme a d'autres aspects. Vous voyez, le christianisme a des commandements, deux rites, baptême et la Sainte Cène. Mais avant tout, le cœur et la substance du message que Dieu vous annonce dans l'évangile, c'est un événement historique. Ce n'est pas une pratique que vous allez faire en allant à l'église, c'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire. Chers amis, Dieu a envoyé son Fils éternel dans le monde en tant qu'homme. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité en vainquant la mort. Paul nous dit dans les versets 14 à 19 que si Jésus n'est pas ressuscité en tant qu'événement réel, historique, palpable, vérifiable, que la foi chrétienne doit disparaître. Il dit que si Christ n'est pas ressuscité, sa prédication est vaine et futile, d'aucune valeur. Votre foi est vaine et utile. L'apôtre ne veut pas qu'on joue un jeu. On ne peut pas jouer un jeu. Si je vous parle d'une chose qui ne s'est pas réellement passée, nous devons fermer cette porte, rendre la clé au propriétaire et quitter le christianisme. Parce que le christianisme dit que tout ton espoir dépend d'un événement qui s'est vraiment passé à un homme. Que Jésus a porté les péchés des âmes et qu'il les a vaincus et a vaincu la mort qui en découle. Si ça s'est passé, on n'a plus de message. Parce que le christianisme ne vous offre aucune autre manière de résoudre votre problème avec le Créateur. Le problème que vous savez avoir, que vous n'avez pas vécu comme il a voulu. Vous n'avez pas cherché sa face, vous n'avez pas voulu le connaître, vous n'avez pas cédé votre raison pour croire sa révélation. Vous avez souvent dit « Non, ça ne peut pas être vrai. Ah, ça ne peut pas. Je ne peux pas vivre comme ça. » Vous avez substitué votre volonté, votre manière de penser à ce que le Créateur lui-même dit être vrai et bon. Je l'ai fait. Nous l'avons fait. Et Dieu ne nous offre aucun autre moyen de remédier à cela que ce qu'il a fait lui-même par le Christ. Ça, c'est le premier point. La résurrection de Jésus-Christ est l'évangile, est le cœur et la substance de l'évangile. Non pas ce que vous allez faire pour Dieu, mais ce que Dieu a fait pour vous dans son amour et sa grâce. Chose bouleversante parce que c'est divin. Quand Dieu fait une chose, c'est pas humain, c'est pas naturel, c'est pas limité. C'est une chose que, oui, je suis d'accord avec vous, crois que c'est vrai. Tout cela, ça s'est vraiment passé. C'est stupéfiant. Parce que c'est quelque chose que le Dieu infini a fait. Bien sûr, ça doit vous bouleverser. Et moi aussi. Donc, nous abordons le deuxième point. Si nous voulons comprendre la résurrection d'entre les morts de Jésus, nous devons comprendre la mort. C'est quoi la mort pour vous? Pour beaucoup de gens aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, la mort est un fait biologique, point final. C'est un fait biologique. Mais quand nous lisons ce passage, par exemple au verset 21, c'est le dernier verset du texte que vous avez lu, nous lisons « Car puisque la mort est venue par un homme », en parlant d'Adam et son péché contre Dieu, le premier à se détourner de Dieu. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En d'autres termes, la mort n'est pas naturelle. La mort est un intrus. Le corps humain meurt maintenant parce que quelque chose s'est détraqué. Et cette détraque est... si on peut dire ça, cette perversion de notre situation est le résultat d'une condamnation de Dieu sur la race humaine qui se rebelle contre lui. Si je vous lisais un peu plus loin dans le texte d'1 Corinthiens 15, on trouverait un autre verset qui est important, c'est le verset 26, je vous le dis. Il dit... En parlant de Christ et comment il vainc toutes choses, il est vainqueur, il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est un fait biologique, mais la mort est un intrus, ça ne devait pas exister. Et troisièmement, la mort est un ennemi de Dieu. Il n'aime pas la mort, notre Créateur. C'est nous qui avons apporté la mort dans l'existence, et la mort est son ennemi, et la mort est notre ennemi. La mort est terrible. Vous savez que je viens de passer une semaine avec ma mère qui est en train de mourir. Et vous avez vu peut-être des gens qui sont proches de la mort. Vous avez frôlé, vous avez été témoin de la mort. Je l'ai été plusieurs fois dans ma vie. Je connais des gens maintenant qui sont dans le désarroi total parce que voilà un adolescent qui est en train de mourir d'un cancer terminal qui ravage son corps et cette jeune vie est en train d'être emportée terriblement. Et tous ses proches sont complètement impuissants. Ce destructeur de la mort l'emporte et il n'y a rien que quelqu'un ou quelque chose sur terre puisse faire. Voilà une vieille personne qui meurt de l'âge ou d'une maladie. Et la même chose autour de lui, la famille, les proches. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et le problème, c'est que dans la mentalité athée, les gens, je les entends souvent devant de telles situations, ils sont fâchés, ils sont frustrés, ils disent, c'est injuste. Bon, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de justice, c'est juste des faits biologiques, hein. Mais ils trichent un peu et ils prennent le... Ils pensent qu'il y a un monde où les choses devraient être d'une certaine façon, c'est-à-dire justice. Mais donc ils trahissent le fait qu'ils savent que Dieu existe et qu'il y a une norme qui est en train d'être bafouée et mise par terre, que l'homme ne devait pas mourir, que la mort est un ennemi. Ça ne devait pas être. Mais en plus, ces personnes athées sont complètement humiliés, dépourvus devant la mort. Ils n'ont aucun message pour la personne qui est mourante. Ils ne peuvent donner aucun espoir. C'est juste une finalité dont on ne peut rien. Voilà la situation. Où vous arrivez si Christ n'a pas vaincu la mort. C'est horrible. Mais la mort a un sens. La mort n'est pas arbitraire, la mort a un sens, a une signification. La mort vous dit quelque chose de sensé, la mort vous donne un message. Et ce message, Paul l'a dit en ces termes, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, car le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, Dieu n'est pas bafoué. Ce que vous semez, vous récolterez. Il est impossible de violer la loi de gravité sans vous casser la figure. Il est beaucoup plus impossible de violer les lois d'un créateur bon et juste sans récolter la mort spirituelle et physique. Ça, c'est le deuxième point. Nous devons, pour comprendre la résurrection, comprendre la mort. La mort est une punition. La mort est liée au péché, à notre détournement de Dieu. Christ est mort pour les péchés. D'accord? La mort et le péché sont liés. Troisième point. Quand l'Évangile nous annonce que Jésus est ressuscité, qu'est-ce que cela veut dire? Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il y a des gens qui se disent chrétiens et ils disent que c'est un peu comme, oui, Jésus est apparu spirituellement, il est ressuscité spirituellement, c'est pas vraiment un homme qui était mort, qui est maintenant dans son corps, qui revit, qui était vraiment mort et qui revit. C'est que Mandela vit encore dans nos cœurs, n'est-ce pas, si nous sommes sud-africains. C'est un peu comme ça. Mais, oulala, que c'est loin de ce que les disciples de Jésus, qui étaient là, qui ont vu les choses, c'est tellement loin de ce qu'ils disent. Parce que, écoutez, nous avons lu ce passage, je pense, tout à l'heure dans le culte, mais d'abord, je vous signale qu'au verset 4, 3 et 4, Paul dit « Christ est mort pour nos péchés, mort physiquement, il a été enseveli physiquement et il est ressuscité le troisième jour, physiquement. » Et si vous voulez une confirmation, Luc nous dit ceci dans son évangile. « Tandis que les disciples parlaient de la sorte, lui-même Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». C'est après sa mort, il est ressuscité maintenant. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Vous voyez, les gens de l'époque sont aussi scientifiques que vous. Hein? Ils disent « La résurrection n'est pas possible, ça doit être un fantôme ». Pour eux, c'est pas possible. Comme pour certains d'entre nous, n'est-ce pas? Donc, ils pensent voir, non pas une vraie résurrection corporelle, mais ils pensent voir une vision, un esprit, un fantôme. Et voilà ce que Jésus répond. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. » Comme vous voyez que j'ai. Donc, la première chose à dire en réponse à cette question, quand nous disons que Jésus est ressuscité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que c'est une résurrection corporelle. Physiquement, le corps de Jésus qui était mort est maintenant vivant. Qui était dans le tombeau inanimé, pendant 3 jours, et c'est pas une réanimation d'une personne qui était presque mort. Il était mort. C'est la mort qui l'a vaincu. Mais la deuxième chose que nous devons dire, c'est que la résurrection de Jésus n'est pas un répit, mais une répit de la mort, mais une victoire sur la mort. Je m'explique. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de quelqu'un que Jésus a ressuscité pendant son ministère sur terre? Lazare. Ok. Jésus a ressuscité un homme qui était mort pendant 4 jours. Alors Lazare a revécu. Il avait été mort. Jésus l'a ressuscité. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Lazare après? Ou peut-être 10 ans après, il est mort encore. Parce que quand Jésus l'a ressuscité, ce n'était pas la même sorte de résurrection que Jésus lui-même a eue. Quand il a ressuscité Lazare, Lazare est redevenu l'homme vivant mais mortel qu'il était. Jésus lui a redonné son corps mortel. Il a fait revivre son âme dans son corps mortel. Donc un jour, ça n'a pas résolu le problème pour lui complètement, parce qu'il est mort un jour. Quand Jésus ressuscite, il ressuscite avec un corps maintenant qui est immortel. C'est-à-dire, en mourant pour nos péchés, en payant la peine de nos péchés, il a enlevé la puissance de la mort qui est le péché. Et donc, quand il ressuscite, il est maintenant le premier homme de l'histoire qui est devenu incapable de mourir. Il a un corps bien physique, il mange plusieurs fois avec les disciples pendant 40 jours, du poisson, du pain. Il a une physicalité, mais comme vous avez lu, comme vous avez entendu dans le culte, il paraît subitement dans une chambre qui est fermée à clé, c'est-à-dire il passe par les murs. Il est capable de faire quelque chose dans un corps humain que nous ne pouvons pas faire. Il a un corps, mais un corps glorifié, différent, au-dessus de la mort, hors de la portée de la mort. C'est extrêmement important de comprendre cela parce que il est le premier, mais il a obtenu ce corps glorifié pour que d'autres puissent l'avoir aussi. Et ça, c'est le message, l'espoir que je peux donner à cet adolescent qui meurt de cancer. Je peux lui dire, j'ai une solution pour toi. La mort qui semble tout dérober, tout mettre à terre, tout détruire. J'ai une solution tellement grande que même pour la mort, même pour ce vieux qui perd la tête, qui perd sa mémoire, qui perd sa personnalité, il semble que tout lui est enlevé. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai quelque chose à lui dire. Il y a quelqu'un qui a vaincu la mort et qui peut ressusciter dans un corps immortel ta personne un jour. La mort ne doit pas être une finalité. Si tu te repens et tu viens à lui, ce Jésus-Christ. C'est un peu ça que Jésus disait à Marthe un jour, le frère de Lazare. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Le quatrième point, c'est une question. Pourquoi est-ce que ta résurrection éventuelle, parce que je ne sais pas si tu vas venir au Christ, mais il le veut bien, mais pourquoi est-ce que ta résurrection éventuelle dépend de la sienne, de la résurrection de Jésus? L'évangile vous dit que vous allez vers la mort, et cette mort est plus forte que vous, mais qu'il y a cette offre que Dieu vous fait dans son amour d'avoir une autre vie. Une vie un jour dans une planète renouvelée, changée. La Bible parle d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux où nous vivons avec notre physicalité, mais de manière immortelle. Mais pourquoi est-ce que ça dépend de Jésus et sa résurrection? Deux versets et deux illustrations. Voilà les versets que vous avez dans votre texte, dans le dernier paragraphe. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Deux choses à relever. D'abord, le mot prémisse. Jésus est les prémices de ceux qui sont décédés. Vous savez ce que c'est que les prémices? Les prémices, quand vous avez une récolte, une cultivation, il y a toujours une partie qui mûrit avant le reste. Ça, c'est les prémices. Les raisins sont pas du tout mûrs, mais il y a une petite partie qui sont mûres bien avant. On peut les appeler les précoces. Les prémices et les précoces. En Israël, Dieu a commandé qu'il y ait une fête annuelle. Cette fête s'appelait la fête des prémices. Cette fête devait se passer chaque année à le troisième jour après la Pâque, parce que la Pâque était d'abord une fête juive, d'accord? C'est-à-dire, Jésus est mort le jour de la fête de la Pâque juive, il est ressuscité 3 jours après, c'était la fête des prémices. Ben non, c'était quoi la fête des prémices? Au moment de la récolte de l'orge, avant que la moisson soit prête, quand les prémices sont arrivées de l'orge, les Juifs, le grand sacrificateur, devaient prendre une gerbe des prémices, des précoces, et ils devaient agiter ça devant l'Éternel Dieu et comme une offrande à Dieu. Il était interdit que les Juifs mangent les prémices. C'était à Dieu et on le donnait à Dieu. OK? Pourquoi? Dieu a commandé ça pour que les Juifs aient d'abord une préfiguration de Christ et sa résurrection, le Messie qui devait venir. Mais d'abord, c'était une façon de reconnaître que le Dieu qui nous a donné juste une gerbe, rien d'autre n'est mûr. Mais cette gerbe, qu'est-ce qu'elle est? C'est quoi les prémices? Pourquoi est-ce que les prémices sont là? Parce que Dieu est en train de vous dire, je vous assure par cette gerbe qu'il y a toute une moisson qui va suivre. D'accord? Donc vous n'avez pas besoin de manger la gerbe. Donc, par la foi en moi, ne mangez pas la gerbe parce que vous croyez que cette gerbe est la garantie que toute une moisson va suivre et vous allez bien manger. Vous comprenez? D'accord? Jésus-Christ est les prémices. Il est le premier à ressusciter, à vaincre la mort. Mais il est un message qui annonce, ne vous en faites pas, vous qui allez mourir, parce qu'il va y avoir toute une moisson d'hommes et de femmes croyants que Dieu va moissonner. Ils vont suivre. Vous allez revivre aussi, vous allez ressusciter. Et c'est pour cela que Paul dit que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. La deuxième chose que je voulais vous montrer dans cette dernière phrase, c'est qu'il dit, c'est par un homme singulier qu'est venue la résurrection des morts. Votre résurrection, la résurrection de tous ceux qui vont ressusciter, dépend de ce qui s'est passé à un seul homme. Vous savez que ça arrive souvent, n'est-ce pas? Voilà un esclave dans l'Empire romain il y a très longtemps, et il est possible d'acheter sa liberté en tant qu'esclave dans l'Empire romain. Si on travaille dur, le maître paie l'esclave, c'est une sorte de servitude payée. Et s'il est fidèle, s'il souffre beaucoup pour gagner plus, et s'il épargne, alors un jour, après des années et des années, il achète sa liberté. Et voilà un esclave qui a fait justement cela. Un jeune homme, quand il n'était plus jeune homme, il a acheté sa liberté. Et vous savez que cet événement qui lui est arrivé, j'ai payé ce qu'il fallait pour devenir libre, cet événement a affecté beaucoup d'autres gens. Beaucoup d'autres gens sont devenus libres à cause de lui et son achat de sa liberté. Parce que il s'est marié un jour, il a eu des enfants, et ses enfants sont nés libres, des hommes libres, parce que, à cause de ce qui lui est arrivé, à cause de sa liberté. S'il n'avait pas acheté sa liberté à lui, s'il n'avait pas été les prémices de ceux qui suivaient, ses enfants auraient été nés esclaves, enfants d'un esclave. eux-mêmes esclaves. Donc, nous voyons que ce qui arrive à une personne peut entraîner un bien pour beaucoup d'autres qui sont attachés à lui. Deuxième illustration. Il y a longtemps, dans certains pays, même en Occident, les gens qui étaient débiteurs, qui devaient de l'argent à quelqu'un, souvent beaucoup d'argent, pouvaient être jetés en prison, et on appelait ça la prison des débiteurs. Il y avait une phrase. Et si on ne pouvait pas mettre la main sur le fautif, qui ne paye pas ses dettes, on pouvait mettre la main sur son garant et mettre le garant en prison jusqu'à ce que le garant paye la dette du débiteur. Et voilà un jour que, imaginez que vous et votre famille entière, vous vous êtes endettés terriblement par une mauvaise gestion, par de mauvaises actions, et vous fuyez la ville. On met la main sur votre garant et on le met en prison. En fuyant, vous entendez la nouvelle, vous êtes déjà assez loin. Oh là là, pour lui. Et vous allez dans un autre endroit lointain. Mais un jour, après 2 ou 3 ans, vous recevez une nouvelle que plusieurs témoins ont vu votre garant en train de marcher libre dans la ville, votre ville que vous avez quittée. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez conclure quand vous entendez cette nouvelle que votre garant est libre, il n'est plus en prison? Oh, il y a une chose sûre, c'est que votre dette a été payée, n'est-ce pas? Et c'est une bonne nouvelle pour ça, pour vous, parce que sa liberté signifie votre liberté. Vous pouvez revenir dans la ville. La loi n'a rien à vous réclamer. Il a déjà payé. La preuve, c'est que lui, il est sorti. La Bible dit donc que la résurrection de Jésus est la preuve que lui, votre garant, qui a pris votre place, qui a pris vos péchés, qui a payé tout ce que la loi demande, le fait qu'il est libre, qu'il n'est pas encore en train de payer encore votre peine, il n'est pas toujours dans le tombeau. Ça montre qu'il a fini de régler la dette de nos péchés. Quelle bonne nouvelle! Donc la résurrection de Jésus-Christ est une annonce et la bonne nouvelle que tout est payé et que si vous venez à lui, vous pouvez revenir dans la ville, c'est-à-dire revenir dans la famille de Dieu, en comptant sur lui. Dernière question. Pourquoi devez-vous croire que Dieu a vraiment ressuscité Christ de la mort? Que ça s'est vraiment passé historiquement? Ce que je vous annonce est incroyable. C'est une grâce, c'est une solution glorieuse et finale à la mort même. Mais est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce que c'est une fable ou une réalité? Je vais juste vraiment rapidement vous donner quelques raisons pour croire que c'est vrai. Mais vous pouvez examiner cela vous-même. Mais nous voyons que Paul lui-même, dans le texte, il dit ceci. Il dit qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par les 500 frères à la fois, 500 personnes, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés, ainsi de suite. Et puis, je l'ai vu moi-même, moi qui le persécutais, moi qui détestais les chrétiens. Ok? Qu'est-ce que ça nous montre? D'abord, les événements de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ étaient des événements très publics. Plusieurs auteurs non chrétiens, des historiens comme Tacite, l'historien romain du 1er siècle, Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, parlent de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est connu. Christus, Le Christus qui est mort et ressuscité selon les chrétiens. C'était public. Paul, en prêchant une fois, en parlant avec Festus, le gouverneur romain, on sait très bien qu'il a existé, Festus lui dit: Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner, parce qu'il lui parlait de la résurrection. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, il parle de Festus, le roi, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Ce sont des événements publics, chers amis, de l'histoire. Deuxièmement, comment est-ce que vous savez que Napoléon a fait ses conquêtes? Vous l'avez vu? Vous étiez là? Comment est-ce que vous pouvez croire? Vous croyez ça? Moi, je crois que sans aucun doute. Tout fait de l'histoire, nous croyons sur la base de témoins. D'accord? Et ça dépend d'abord combien de témoins il y a eu. S'il n'y a eu qu'un témoin, on hésite un peu. Paul enchaîne. Il dit d'abord Céphas, et puis les 12, et puis Jacques, et puis 500 personnes à la fois, et puis moi. Ce n'est pas une hallucination, parce que 500 personnes ne peuvent pas avoir la même hallucination au même moment. D'accord? Beaucoup de témoins. Ensuite, il dit, allez leur demander vous-même. C'est pour ça qu'il dit, il a été vu de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. C'est-à-dire, allez demander vous-même. Ensuite, oui, ils auraient pu démentir si ce n'était pas vrai. Ensuite, on se demande toujours, est-ce que les témoins sont fiables? Ou est-ce qu'ils avaient une raison pour créer une supercherie? Alors, Paul et les autres apôtres qui témoignent de ces choses sont des hommes des plus intègres. En fait, ils donnent au monde l'éthique la plus haute qui a jamais existé dans l'histoire humaine. Ils sont toujours en train d'enseigner dans leurs épîtres que les chrétiens doivent dire la vérité et jamais mentir. D'accord? Que le Dieu saint n'aime pas le mensonge. Et ensuite, 11 des 12 meurent pour avoir prêcher que Christ était ressuscité. Pierre était crucifié. Si nous comptons ces âmes, nous voyons que à peu près 6 d'eux ont été crucifiés, certains tués par des flèches, d'autres tués d'autres manières. Mais un seul des apôtres est mort par une mort naturelle, et ça, c'est Jean. Vous savez, chers amis, que quand tu sais que quelque chose n'est pas vrai, tu cesses de l'annoncer quand on va te crucifier. Maintenant, je suis d'accord avec vous, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour des choses qui ne sont pas vraies. Et je vous assure que les 12 savaient si Jésus était ressuscité, s'il avait mangé pendant 40 jours avec eux, s'il avait touché ses mains et vu le trou dans. Ça, c'était un truc vérifiable. Et quand tu arrives devant tes bourreaux et ils vont te tuer pour avoir dit que Jésus est ressuscité, tu dis, je sais fort bien que ça, c'est pas vrai. Et ils sont tous morts pour avoir prêché cela. Vous avez la raison la plus sûre possible de croire que ces témoins ne disent pas une fausseté. Blaise Pascal a dit une phrase vraiment géniale. Il a dit ceci, parce qu'il est chrétien et il parle de ce témoignage d'hommes qui sont morts pour avoir dit. Il dit, Blaise Pascal, je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. J'irai plus loin. Je ne crois que les histoires vérifiables que les témoins se feraient égorger. Ensuite, il faut que vous sachiez que les quatre récits dans les quatre évangiles qui parlent de la résurrection de Jésus, nous avons un grand problème. Parce que dans chacun de ces quatre évangiles, les premières personnes qui sont témoins oculaires du Christ ressuscité, c'est qui? C'est des femmes. Or, dans le monde de l'époque, les femmes ne sont même pas considérées comme des témoins légitimes. Je vous lis les propos de Flavius Joseph, donc historien juif du 1er siècle. Il est né l'année, à peu près l'année de la mort de Jésus. Donc il a vécu pendant les contemporains de Jésus, parce que Jésus est mort vers l'âge de 33 ans. Donc Flavius Joseph dit ceci. « On ne se fiera pas à un témoin unique. » Je suis d'accord. Il en faut trois ou au moins deux dont le témoignage sera garanti par leur vie passée. Les femmes ne rendront pas de témoignage à cause de la légèreté et de la témérité de leur sexe. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces hommes? Ils sont juifs. Ils savent que c'est la pensée ambiante. Or, ils mettent dans chacun de leurs évangiles que les premiers à voir, les premiers témoins qui informent tous les autres, c'est les femmes. La seule explication de cette chose, c'est que ça s'est passé comme ça, réellement, et il fallait dire la vérité. Si tu veux créer une religion et faire croire aux gens quelque chose, tu ne vas certainement pas mettre ça. Pas à cette époque. Deux choses de plus, et je conclue. Je suis en train de vous donner quelques raisons pour croire. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous donne quelques-uns. Paul a dit dans le verset 4, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, que Jésus est ressuscité selon les Écritures? Paul est en train de parler du fait que pendant des siècles avant que Jésus ne vienne, Dieu a annoncé par des prophètes de l'Ancien Testament qu'il allait envoyer un Messie. Ce Messie allait mourir et allait ressusciter le troisième jour. Pourquoi est-ce que Dieu nous prédit une telle chose? Pour que quand ça arrive, c'est tellement incroyable. Mais si Dieu l'a dit d'avance, quand cela arrive, ça nous aide à croire, n'est-ce pas? Et je vous laisse le soin de vérifier vous-même ces prophéties qui annoncent le Messie qui ressuscite d'entre les morts. La dernière preuve, ce n'est pas une preuve palpable. Je voudrais vous dire juste ceci. Écoutez bien, s'il vous plaît. Je sais que j'ai été un peu long, mais je termine. Dieu lui-même, votre Dieu, témoigne à vous que c'est la vérité historique, que ça s'est vraiment passé. Là où l'évangile est annoncé, un homme vous parle comme moi, il vous donne des preuves historiques, mais Dieu vous parle aussi. C'est pour cela que Pierre dit ceci dans le livre des Actes, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué, il parle aux Juifs, en le pendant au bois. » Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins, je suis témoin, mais je sais que Dieu aussi vous témoigne que je ne suis pas en train de vous dire quelque chose de faux. En fin de compte, chers amis, ce n'est pas vous qui allez être juge un jour et juger si la résurrection de Jésus est croyable, est vraisemblable. C'est en fait le contraire. Un jour, vous allez vous tenir devant Jésus-Christ et lui, il va vous juger pour ce que vous avez cru ou pas cru lorsqu'il vous a donné des preuves, les prophéties, les témoins, le tombeau vide que personne ne peut expliquer. Tout ce qu'il aurait fallu pour prouver que Jésus n'est pas ressuscité, et les Juifs voulaient le prouver, c'était de sortir le cadavre du tombeau, le promener une bonne fois autour de Jérusalem, et puis personne ne redit que Jésus est ressuscité. Mais le tombeau est vide. Il est ressuscité. Et c'est lui qui vous donne une preuve sûre. Écoutez le dernier verset. Dieu, sans tenir compte, Actes chapitre 17, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, donc vous, en tout lieu, ici, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, Dieu dit qu'il vous a donné une preuve certaine. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui, mais vous devez arriver par la grâce de Dieu en examinant et aussi en faisant face à votre cœur. Pour quelle raison est-ce que je ne veux pas que ce soit vrai? C'est une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que je ne veux pas que ce soit réel? Donc, en faisant ce travail en vous, en cheminant, et puis en arrivant à voir que c'est vrai, et que Dieu m'interpelle, vous arrivez à l'endroit où Dieu veut. Donc, je vous implore et vous encourage de lire les évangiles, de lire les récits sur la résurrection de Christ, de penser à la mort que vous allez affronter un jour, de penser au fait qu'il n'y a aucun espoir pour cela si le Sauveur n'a pas vaincu la mort. Et un Dieu qui envoie un Sauveur pour vaincre la mort que nous avons attirée sur nous-mêmes, il est plein de grâce. Il est plein d'amour. Et il est un Dieu vers qui il fait bien de venir. Que Dieu vous aide à croire dans ce Christ ressuscité.
Nous allons terminer ce temps de culte par un dernier chant. Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. C'est le numéro 131.